On parle de vaccins maintenant. Et parce que ce matin, il y avait un article fascinant dans la presse sous la plume de Mathieu Perrault. C'était une entrevue avec le chercheur italien Rino Rappuoli sur les bonds de géants qui ont eu lieu depuis un an dans le domaine de la vaccinologie. La pandémie a été terrible, mais ça a permis d'accélérer le développement des connaissances en matière de vaccins et aussi de commercialisation, de fabrication. On parle de tout ça immédiatement avec la professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire de l'Université Laval, la professeure Nathalie Granvaux. Professeur Granvaux, bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez, j'ai lu le papier, l'entrevue avec le chercheur italien, là, et c'est absolument fascinant parce que, bon, il n'y a personne qui se réjouit de la pandémie, mais ça a permis une sorte de révolution en vaccinologie.
Ah, absolument. En fait, ça a accéléré les choses de manière assez extraordinaire parce que, en fait, les vaccins ARN sont déjà en cours de développement depuis au moins une décennie dans différents domaines. Même dans les virus respiratoires, il y avait déjà des candidats vaccins qui étaient dans les phases précliniques. Mais d'habitude, ça prendrait 10 ans pour se rendre au bout. Et là, en fait, avec l'accélération qu'il y a eu la dernière année, toutes ces capacités-là vont aller beaucoup plus vite dans le futur pour d'autres pathologies que la COVID-19.
Vous êtes une spécialiste des virus, une spécialiste des pathogènes, des vaccins, professeur Granvaux. Il y a un an, quand on a commencé, quand on est tombé là-dedans, est-ce que vous pouviez anticiper que la science ferait des bonds de géants pour les vaccins?
On était tous un petit peu sceptiques, puis on avait discuté ça à plusieurs reprises en disant que ça allait prendre au moins un an et demi, 2 ans avant qu'on ait un candidat vaccin qui soit sur le marché. Et en fait, tout est allé très vite. Donc non, c'était difficile d'anticiper ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mis. Tout est en accéléré en ce moment. Mais de là à pouvoir prédire que ça irait si vite, c'était impossible à penser.
Si on avait une nouvelle, puis on ne souhaite pas ça, là, on se comprend, là, mais disons qu'en 2030, une nouvelle pandémie nous tombait dessus là, du même type. Est-ce que le développement d'un vaccin serait plus rapide encore que ce qu'on a pu constater depuis un an?
Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, il y a deux éléments. La technologie du vaccin a changé définitivement. Là, on ne fera plus les vaccins comme on les faisait avant. Ici, ce qui nous a permis d'aller aussi vite en dehors de la technique de vaccin, c'est aussi toutes les connaissances fondamentales qu'on avait acquises au moment de l'infection par le SRAS en 2003. Donc ici, vous avez entendu souvent parler de la fameuse protéine spike, là, où les vaccins sont dirigés contre cette protéine, et du fait que c'était elle qui permettait au virus de rentrer. Et il se trouve que le SARS-CoV-2, c'est un cousin du SRAS, et donc du coup, on savait déjà ça, puis on l'a validé très très vite, et donc en fait, on a tout de suite pu se dire que c'était cette protéine-là qu'il fallait cibler. Donc si dans 30 ans, on a un autre virus qui arrive, il faut qu'on sache quelle protéine cibler. Et à ce moment-là, on peut appliquer la même technique actuellement pour les vaccins ARN qui vont très, très vite à développer, effectivement. Mais il faut avoir cette connaissance fondamentale qui, elle, doit être, impossible à planifier. Donc, il faut laisser les chercheurs étudier le maximum de virus ou de bactéries ou d'autres pathogènes pour avoir tous ces éléments-là le jour où ça arrive.
Professeur Granvaux, vous parlez du SRAS de 2003. Il y a beaucoup de chercheurs qui disent que c'est une occasion manquée. C'était une sorte d'avertissement de la pandémie qui nous a frappés 16 ans plus tard. Est-ce que le Canada a raté les leçons du SRAS de 2003?
Oh, c'est pas juste le Canada, c'est la planète entière en recherche. Tous les financements ont été un peu comme en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu des financements extraordinaires, je dirais, pendant une année, comme on l'a eu un peu récemment pour le Zika aussi, où il y a eu beaucoup de financements de recherche tout d'un coup. Et puis là, il n'y a plus de patients, il n'y a plus de personnes infectées. Donc, on dit ça vaut plus la peine. Puis les financements s'arrêtent et donc toute la recherche s'est arrêtée. Il y avait des gens qui étaient déjà très avancés pour des vaccins à l'époque contre le SRAS, mais qui n'ont pas pu aller au bout ensuite, faute de financements qui se sont arrêtés. Donc oui, c'est un acte manqué beaucoup.
OK. Aux États-Unis, aujourd'hui, là, le président Biden était très heureux de dire aux Américains que bientôt, là, dans l'année qui vient, les Américains vont être vaccinés. Les Américains ont clairement des capacités de fabrication de vaccins qui sont pas, disons, comme celles qu'on connaît au Canada. Les leçons pour le Canada dans notre capacité de fabrication de vaccins, ça doit être quoi, d'après vous?
Ben, c'est sûr qu'il faut avoir, il faut redévelopper une capacité de production, en fait, de vaccins et aussi d'autres médicaments. Le Canada, c'est beaucoup tourner vers les génériques, mais on n'a plus de... Les génériques, ça arrive très tard, quelques années, une fois que les brevets sont terminés, et on a perdu toute cette capacité-là d'autonomie, et il va falloir... Je pense que nos gouvernements vont vraiment devoir se poser des questions et rétablir cette capacité-là de lien aussi entre les universités et les entreprises qui produisent, parce qu'on l'a vu, que ce soit pour le vaccin d'AstraZeneca en lien avec Oxford, Moderna, c'est aussi en lien avec des académiques, Pfizer, c'est avec une petite biotech, et, mais tout, tout ça a été développé dans des milieux académiques, et il va falloir aussi faire ce tissu, en fait, entre l'académique et la production.
Okay, Pardon, vous avez sans doute entendu le point de presse là, de Christian Dubé et de Dr Arruda un peu plus tôt aujourd'hui. Les deux ont insisté sur le caractère, disons, dormant des vaccins. Là, on est à... les chiffres sont en train de baisser, sauf que les autorités, clairement, ont peur des variants. Est-ce que vous partagez cette peur-là? Parce qu'on a parlé carrément de peur.
Oui, ben en fait, oui, je la partage en partie parce que là où je serais un petit peu plus prudente, c'est qu'on commence à connaître les chiffres sur les variants seulement depuis 2-3 semaines ici au Québec. Donc, c'est sûr que tout d'un coup, on voit un grand nombre de cas de variants parce qu'avant, on les détectait pas, on les cherchait pas. Donc là, ça paraît soudainement très gros, puis on pouvait s'y attendre. Il y a deux profils qu'on voit dans le monde. Il y a le profil qui s'est passé au Royaume-Uni où les variants ont flambé. Parce qu'il n'y avait pas de mesures sanitaires en place. Au Danemark, par contre, les cas diminuent globalement. Les variants prennent un pourcentage de plus en plus important de ces cas, mais les cas globalement continuent de diminuer. Fait que si on est dans ce scénario-là, à cause de nos mesures sanitaires en place, on est en contrôle encore. Donc, on a encore deux options possibles. Moi, ce qui me fait du souci, c'est plus le fait que là, avec la période de la semaine de relâche, il y a et puis d'anticiper un certain déconfinement, comme il parle, qui m'inquiète. Mais si on garde nos mesures sanitaires en place, on devrait être capable de contrôler ça.
Très bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci. Bonne soirée.